Santé pour tous. Santé pour tous. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Chaque individu est composé de milliards de cellules contenant tout un noyau, donc une information génétique. Comprendre la génétique et comment se transmet et se développe certaines maladies nécessite d'avoir quelques informations. On entend souvent dire que toutes les cellules de notre corps ont le même patrimoine génétique. Qu'en est-il réellement? Notre invité de ce jour est généticien, professeur à l'école de médecine de l'université Emory à Atlanta, en Géorgie aux États-Unis. Avec lui, on partagera quelques bases pour mieux comprendre le lien entre l'être humain, la génétique et l'hérédité et bien d'autres choses. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Docteur Okou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes attaché de recherche à l'Institut National de Santé Publique en Côte d'Ivoire. Vous êtes un spécialiste en génétique humaine et en génétique moléculaire clinique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'ADN?
L'ADN, l'ensemble de l'information qui constitue le plan de construction de l'être humain. Et la génétique est cette science qui étudie les caractères qui sont transmis de génération en génération. Au sein de la génétique, c'est tout ce qui a trait à l'être vivant, son fonctionnement, ce qui en découle, l'état de santé, et comme on le dit souvent, les variations qui déterminent un peu les transmissions et les comportements de chacun. Pourquoi est-ce qu'on est différent? Pourquoi est-ce qu'on a des traits communs? C'est vraiment une science transversale qui couvre tous les domaines.
Quel est l'élément important au niveau de l'ADN pour obtenir une information génétique précise?
Tout ce qui est dans l'ADN est utilisable. Alors, il y a plusieurs parties. J'assimile ça à une bibliothèque qui est l'ensemble de l'information que nous avons. Et il y a des compartiments, ce qu'on appelle les chromosomes, qui représentent un peu les étagères. Et à l'intérieur des chromosomes, nous avons les informations qui sont un peu les livres qui sont sur ces étagères-là. On peut les assimiler à ce qu'on appelle les gènes. Et ce sont ces gènes-là qui contrôlent les fonctions biologiques de l'être humain. Et il y a cette autre partie-là qui justement contrôle ce qui nous rend unique. Et c'est cette autre partie-là, en général, qui est exploitée pour, par exemple, les tests de paternité, pour identifier les individus et tout ça.
Alors, comment des cellules aussi différentes peuvent-elles obéir à des gènes strictement aussi identiques?
C'est un peu ce qui est merveilleux. En termes de ce qui est identique, il faut d'abord comprendre que l'être humain, nous sommes identiques à au moins 99%. En biologie moléculaire, il y a ce qu'on appelle le dogme. C'est cette loi-là qui obéit un peu au flux de l'information, l'ADN, l'ARN, les protéines. Alors, les fonctions biologiques sont les mêmes chez tous les êtres humains. Il y a à peu près 25 000 gènes qui dirigent ces fonctions-là que nous avons tous. Maintenant, en dehors de cela, il y a des comportements individuels, il y a des traits qui sont spécifiques soit à certaines populations, soit à certains individus. Un exemple très simple, c'est de savoir que pour le même médicament, deux individus réagissent différemment. Et c'est là où les particularités individuelles interviennent, en dehors de ces 99% que nous partageons.
Alors, professeur, parlez-nous des maladies génétiques. Combien de types de maladies il existe à ce jour?
Recensés entre 8 et 10 000 maladies génétiques. C'est les maladies pour lesquelles il existe une anomalie au niveau de l'ADN. Tel que l'ADN est conçu pour un sujet normal, quand il y a une déviation, il y a une anomalie, cela a tendance à aboutir à un dysfonctionnement. On dit que l'ADN, c'est des lettres. Il y en a quatre. L'adénine qui est A, la thymine qui est T, la cytosine qui est C, la guanine qui est G. Il n'y a que ces quatre lettres-là qui se répètent et cette combinaison de ces quatre lettres-là représente un message bien précis. Pourquoi est-ce que la couleur de la peau est blanche, noire? Pourquoi est-ce que les yeux sont bleus? Pourquoi est-ce que l'écran est petit et tout ça? C'est des messages très précis. Ça, ce ne sont pas des maladies, mais quand une fonction biologique est altérée, là, ça devient une maladie. Par exemple, la drépanocytose que nous avons ici, qui est seulement le remplacement d'une seule lettre et qui aboutit à cette maladie-là.
Quelle est la maladie génétique la plus fréquente ici en Côte d'Ivoire?
La drépanocytose, justement, c'est pour cela que j'ai pris cet exemple. C'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente en Afrique, qui reçoit le label de maladie méditerranéenne et maladie africaine. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Pour les maladies de ce genre, ce qui est intéressant au plan génétique, c'est que c'est facile de dépister, facile de diagnostiquer. Il suffit de prendre un frottis buccal. On peut déceler l'anomalie et dire à l'individu soit vous êtes porteur, soit vous avez la maladie. Parce que la classification d'être porteur ou malade dépend un peu de l'anomalie au niveau du chromosome. Mm-hmm. Pour chaque chromosome, nous avons deux copies. Il faut dire que nous recevons la moitié de l'information de papa et l'autre moitié de maman. Alors, quand l'anomalie est au niveau des deux copies, là, on fait la maladie. Quand c'est une seule copie, on est porteur, on peut mener une vie normale.
On parle des maladies génétiques. Qui sont les personnes à risque?
Les personnes à risque sont celles qui ont des antécédents familiaux. Et cela, pour toutes les maladies. Quand il y a des antécédents familiaux, on peut déterminer le risque, la probabilité pour quelqu'un de développer ces maladies-là. Il y a aussi le facteur environnemental. Pour quelqu'un qui vit, par exemple, dans un environnement très pollué où il y a ce qu'on appelle des produits cancérigènes, c'est aussi un risque. Par exemple, nous avons eu une histoire des déchets toxiques ici, par exemple.
En Côte d'Ivoire.
Voilà. Le mutagène qui est lié à ces déchets toxiques-là peuvent altérer l'ADN de l'individu qui encaisse cet environnement-là. Et cet individu-là peut ne pas avoir des problèmes, mais sa descendance peut justement avoir des problèmes et perpétuer ça sur plusieurs générations. Donc le risque est lié à la structure familiale et à l'environnement aussi.
Est-ce qu'à ce jour, professeur, les études ou les recherches sur l'ADN ont permis de nombreuses avancées médicales?
Ah oui, surtout suite au fait que en 2000, nous avons eu droit à une séquence qu'on appelle la référence du génome humain. Un peu comme si on disait que la bibliothèque de l'être humain est connue dans ses détails. Et c'est depuis cette information que les applications dans le domaine de la médecine ont été explorées pour comprendre pourquoi les individus développaient les maladies et comment est-ce qu'on pouvait recenser différences génétiques entre les populations et comment est-ce qu'on pouvait les exploiter pour dépister les maladies, pour soigner ou trouver des solutions thérapeutiques. Mm-hmm. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées. Néanmoins, le consensus d'ADN que nous avons reçu après le projet de séquençage du génome humain, il est beaucoup plus eurocentrique, à 80% issu des populations d'ascendance européenne. Ce qu'il fait, qu'il y a des lacunes, il y a un manque à combler par rapport aux Africains. Et disons qu'aujourd'hui, quand il s'agit des études biomédicales, il n'y a seulement que 2% des Africains qui sont pris en compte. Alors que nous avons la plus grande diversité génétique au monde et nous avons tous les cas de figure qui peuvent même aider le reste de l'humanité.
On pourrait dire que c'est une ambition forte, mais quelle est la place de la médecine personnalisée dans tout ce système?
La médecine personnalisée, médecine de précision. Et qu'est-ce que cela veut dire? On veut, pour chaque individu, sur la base de ces informations génétiques, pouvoir offrir à cet individu-là un traitement sur mesure, une thérapie sur mesure, plutôt que la notion de une mesure pour tous, qui est actuellement pratiquée pour lequel, pour le même médicament, il y a des personnes qui réagissent différemment et même des fois qui font des effets adverses assez graves.
Inné, acquise, comment survient une maladie génétique?
Les deux. J'ai parlé de facteurs de l'environnement et dans ce cas, ça devient acquis puisque l'environnement exerce un effet sur la biologie, peut modifier l'ADN qui, par ces modifications-là, peuvent être transmis à la descendance. Alors, quand c'est inné, on le reçoit de l'ascendance. Les grands-pères avaient, les parents l'ont, et moi je l'ai, et je vais les transmettre.
Alors ces maladies génétiques, est-ce qu'elles ont chacune une particularité?
Oui, elles ont chacune une particularité, et c'est justement ces particularités-là qui sont exploitées pour le dépistage. Parce que l'information qui aboutit à l'anomalie n'est pas la même. Quand on sait ces informations-là, on dit voilà ce qu'on recherche pour le dépistage, ou voilà ce qu'on sait pour lequel on veut trouver une solution. Donc oui, il y a des particularités au niveau même du mécanisme de ce qui provoque la maladie, dans la manifestation, dans la présentation de la maladie. C'est pour cela que chaque maladie génétique a son nom, le mécanisme est différent et ce qui ajoute un peu un degré de difficulté à la chose, c'est que pour la même maladie, les populations réagissent différemment. Par exemple, pour une maladie comme le cancer, nous avons remarqué que les populations d'ascendance africaine font des formes beaucoup plus graves que les populations d'ascendance européenne. Et cela est strictement lié à la biologie d'abord et à l'environnement ensuite.
Alors, est-ce qu'il existe des méthodes justement pour prévenir ces maladies héréditaires dont vous parliez tout à l'heure?
Oui. Quand on sait qu'il y a un contexte héréditaire, la première des choses, c'est d'identifier le facteur qui est transmis et qui est responsable de la maladie. Une fois qu'on sait ce facteur-là, alors c'est facile à chercher chez les sujets qui sont encore bien portants, qui n'ont pas encore fait la maladie. Donc ça, c'est un dépistage et ça s'inscrit dans le cadre de la prévention pure.
Est-ce que les anomalies génétiques sont-elles toutes néfastes, parlant justement du gène qui provoque la drépanocytose?
Je ne dirais pas néfaste parce que ça soustrait vraiment l'optimisme et tout ça. Mais je dirais qu'avec l'avancée de la médecine, il y a des solutions qui s'offrent à nous. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de maladies incurables, mais telles que les choses avancent, de nos jours, on n'a pas, par exemple, besoin de mourir d'un cancer. Il y a le moyen de prévenir, il y a le moyen de suivi, il y a le moyen pour traiter. Maintenant, en dehors de cela, il faut tenir compte du contexte génétique et environnemental. Le contexte génétique demande qu'on puisse savoir, par exemple, qui tolère les médicaments et qui ne tolère pas. Quand on ne sait pas ça, ce médicament-là, qui n'est pas toléré, peut avoir des effets adverses qui peuvent même accélérer un décès. Alors que si on sait que quelqu'un ne le tolère pas, on ne donne pas ce médicament. Et ça, c'est la pharmacogénétique qui permet de déterminer la réponse de quelqu'un aux différents médicaments. L'avancée de la médecine est aussi telle que les anomalies génétiques peuvent être corrigées au départ. On voit cela beaucoup dans les cas d'insémination artificielle. Les gens qui font des in vitro, quand on a l'œuf, avant de l'implanter, on peut faire un dépistage génétique pour soustraire tout ce qui est anomalie génétique et puis implanter un œuf sain. Alors, pour ceux qui sont malades, il y a maintenant des techniques qui permettent de corriger l'anomalie qui est déjà présente dans un individu et permettre à cet individu de vivre une vie normale. Et pour d'autres contextes, on fait le suivi et puis dans les cas de cancer, enlever la tumeur et tout ça. Mais pour être honnête, il y a beaucoup de maladies génétiques pour lesquelles il n'existe pas de solution.
Je souhaite revenir sur les différents types de transmission des maladies génétiques. Tout à l'heure, vous en avez parlé, mais de façon approfondie, que savoir?
Il y a plusieurs types de transmission. Alors, en termes de transmission, pour chaque chromosome, nous avons deux copies. Si une seule copie aboutit à une maladie, on parle de transmission dominante. Ça veut dire que, quelle que soit la copie qui est malade, le sujet qui reçoit cette anomalie doit faire la maladie. L'autre cas de figure, il faut nécessairement que les deux copies soit anormal pour faire la maladie, on parle de transmission récessive. Ça, c'est le cas de la drépanocytose. Donc, dans ces deux cas de figure, quand cela se fait avec les 22 paires de chromosomes qu'on appelle les autosomes, c'est une transmission dominante ou récessive autosomique. Maintenant, sur les X et les Y, là aussi, ça existe, la dominance. Chez les femmes qui ont deux copies de X, on peut parler de dominance et de récessive. Mais chez les hommes, où il y a X et Y, qui n'est pas exactement la même chose, là, on est dans un cas où c'est toujours dominant.
Dites-nous, quels sont ceux à caractère non héréditaire?
En général, on transmet tout, mais nous avons 25 000 gènes. Il y a une partie de notre patrimoine génétique qui ne contribue pas nécessairement aux fonctions biologiques. Ces parties-là, quand on dit un test de paternité, on ne regarde pas ce qui contribue aux fonctions biologiques. On regarde certains éléments qui se répètent dans l'ADN. Si, par exemple, le nombre de répétitions est, disons, 25, est-ce que l'enfant a obtenu les mêmes 25 pour ce marqueur-là? Il y a plusieurs marqueurs. Donc, on peut prendre une quinzaine de marqueurs. Pour chaque marqueur, il faut que l'enfant hérite exactement de la même chose que le papa a transmis et qu'il reçoive exactement de la même chose que la mère. S'il y a quelques marqueurs qui dévient de ça, l'individu est exclu de la paternité.
Quels sont les caractères héréditaires influencés par l'environnement?
Les caractères qui sont influencés par l'environnement sont divers. Je dirais même presque tous les caractères subissent l'influence de l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'ADN en lui-même ne subit pas de changement. De la naissance jusqu'à la mort, l'ADN reste exactement le même. Alors ce que l'environnement fait, c'est réguler la fonction du gène. Qui dit, par exemple, si ce gène devait fabriquer telle protéine en une quantité X. Je prends un exemple, 5 mg par millilitre. L'environnement va faire que tu produis peut-être 10 mg par millilitre, ou moins. Ça peut être surexprimé ou sous-exprimé. Donc cet environnement-là, à travers la régulation, peut aussi entraîner des maladies. C'est ce qui fait, par exemple, que par rapport au fonctionnement du rein, le niveau de créatinine est beaucoup plus élevé chez les sujets d'ascendance africaine que chez les individus d'ascendance européenne. C'est pour cela que, pour nous autres qui avons étudié aux États-Unis, qui venons en Côte d'Ivoire, il ne suffit pas de répliquer, il faut adapter. C'est ça le plus important. Donc, compte tenu des réalités locales, on remarque qu'il y a des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes dans cette zone géographique par rapport à cette autre zone géographique.
Parlons justement de ce projet de cartographie des génomes que vous comptez initier en Côte d'Ivoire. Que savoir?
Le projet est de pouvoir recenser ce qu'on appelle les variations génétiques qui sont spécifiques aux Ivoiriens, mais éventuellement aux Africains. Avant d'avancer et vouloir proposer des solutions sur mesure pour les individus d'ascendance africaine, il faut d'abord savoir ce qu'ils ont. Et cela demande d'établir la bibliothèque de la population ivoirienne. Et statistiquement, il faut un certain nombre pour que cela ait un poids. Donc, une fois qu'on fait ça, et puis on recense les variations, on peut maintenant dire, voilà, que ce soit ceux qui sont en Occident, que ce soit les sociétés pharmaceutiques, de recherche et tout ça, voilà notre information qui va vous aider à développer des médicaments et des thérapies pour nous. Donc, ce projet, il est nécessaire et il est primordial. Mais c'est un grand projet qui nécessite une volonté de la population, une volonté politique et une équipe très grande. Si on ne passe pas par cette étape-là, on ne pourra pas se prendre en charge. Parce que les médicaments qui arrivent, l'efficacité déclarée n'est pas celle que nous voyons sur le terrain. Donc, il faut savoir poser les questions et aller vraiment à la source qui est l'ADN.
Quels sont les avantages pour les populations, les experts de la santé et les assureurs? Qu'est-ce qu'ils gagnent à le faire?
Ils gagneraient à guider leurs décisions cliniques. On veut être en mesure de pouvoir dire à un individu, par exemple, ce médicament, il est pour tout le monde, mais il n'est pas pour toi. Ou bien il est pour toi, mais il n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est un avantage. On veut pouvoir, dès le départ, dépister cet individu-là et pouvoir donner un traitement adapté. Parce que pour la même maladie, ce n'est pas sûr que deux personnes puissent bénéficier du même traitement. Donc, on gagnerait à orienter les décisions, on gagnerait à développer les traitements sur mesure, on gagnerait à faire un suivi et on gagnerait en termes de population à réduire le fardeau de la santé publique, les maladies qui sont vraiment des soucis de santé publique. Il faut aussi que le personnel de la santé, les référents, soient munis assez d'informations pour savoir même comment identifier les individus qui sont éligibles pour les tests génétiques et comment les orienter et comment développer une prise en charge. Il faut aussi que nos étudiants qui sont formés puissent déjà au départ s'imprégner de ces informations-là, savoir et pouvoir communiquer là-dessus. Toutes les branches de la santé sont concernées.
Voilà, y compris les assureurs.
Qui justement feraient beaucoup d'économies en mettant l'accent sur la prévention plutôt que la cure qui revient cher dans le cas d'un cancer par exemple. Je pense que ça peut avoir des programmes de dépistage pour certaines maladies, ce qui est hémoglobinopathie par exemple, au niveau de la pédiatrie, même au niveau prénatal. Et ça aussi, ça contribue à maintenir la stabilité dans le développement d'un pays. Il y a beaucoup à faire. Je lance un appel à tous ceux qui pensent qu'ils ont des compétences en génétique pour qu'on puisse discuter, que ce soit ici ou dans la sous-région. C'est quand même important que nous puissions joindre nos forces pour pouvoir travailler.
Un contact?
Le mail teaokou@hotmail.com.
Voilà. Merci infiniment, professeur.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.
Radio de la paix.
Comment sont dépistées les maladies génétiques? Quels risques de transmission aux enfants? On en parlait dans ce magazine de santé avec un généticien, professeur à l'école de médecine de l'Université Memorial Atlanta en Géorgie aux États-Unis, également attaché de recherche à l'Institut national de santé publique en Côte d'Ivoire. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.